Tout de suite,
État et civil
sur LFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Boraski, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours bien sur LFM, sur le 95.5 FM. Il est 11h et comme tous les mercredis, c'est l'heure d'État et civil, l'émission qui donne la parole aussi bien à l'État, aux collectivités, mais aussi aux citoyens pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Aujourd'hui, dans l'émission État et civil, on va aborder les conditions de travail des sapeurs-pompiers. Pour tout le monde, le métier de pompier est vu comme un métier dangereux qui amène énormément de respect pour tous les professionnels de ce milieu. Mais est-ce vraiment la réalité ? Aussi bien d'un point de vue contractuel que de rapport avec la population. La réponse de William Moreau que j'ai pu rencontrer, qui est sapeur-pompier, adjudant-chef, secrétaire général de l'UNSA, Union Nationale des Syndicats Autonomes. On va écouter notre échange durant toute cette émission et on va le couper en deux parties comme d'habitude. Je vous laisse tout d'abord pour cette première partie, on revient juste après pour la pause musicale. A tout de suite.
LFM 95.5.
Il y a un an de ça, j'avais reçu Grégory Chailloux dans nos locaux pour parler justement du métier de pompier, des conditions de travail. Le 28 janvier 2020, du coup, il était présent place de la République comme de nombreux pompiers avec les autres syndicats, des pompiers pour manifester concernant une revalorisation de la prime de feu et le maintien de votre système de retraite. La situation quelques années plus tard aujourd'hui, il y a eu une revalorisation, c'est ça si je ne me trompe pas?
Sur la prime de feu, elle est passée de 19 à 25%, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà, tout en sachant qu'on voulait sur le plan national une prime à 29%, comme les policiers ont une prime de risque à 29%. Bon, bah, les 4% on les a pas eu, peut-être qu'on les aura un jour. Enfin, c'est une bonne avancée quand même.
Voilà. Sur la prime de feu.
Sur la prime de feu.
Qu'est-ce que c'est tout simplement la prime de feu?
Alors la prime de feu, bah, c'est un pourcentage, hein, donc 25% sur le salaire de base, qui est compris aussi pour la retraite. Mm-hmm. Voilà. Par contre, pour l'avoir dans la retraite, pour l'avoir le bénéfice de cette prime de feu dans la retraite, il faut à tout prix finir comme sapeur-pompier. C'est-à-dire qu'on peut cotiser pendant 30 ans en tant que sapeur-pompier pour cette prime de feu. Et au moment donné, si, mettons, en fin de carrière, on n'est plus sapeur-pompier pour X raisons, on perd cette prime de feu et le bénéfice pour la retraite.
D'accord, okay.
Donc, c'est une demande future, c'est d'intégrer vraiment véritablement cette prime de feu pour qu'après les gars qui partent, maintenant c'est de plus en plus le cas, hein, les gens ne restent pas dans la carrière, mm-hmm. Déjà pour, des fois des problèmes de capacité, on va dire, opérationnelle. Hein, donc là on essaye d'appuyer pour que ça soit mis.
C'est ça, la prime de feu et les retraites, c'est directement lié
C'est lié en partie, quoi, en partie, sauf si on finit pas sapeur-pompier.
Selon des chiffres du ministère de la fonction publique, il y a près de 4 fois moins de candidats au concours donc pour devenir fonctionnaire par rapport à il y a 25 ans, donc enseignant, policier, mm-hmm. Personnel de justice, ouais. Pompier également.
Ouais, pompier.
Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi, cette baisse des sapeurs-pompiers aujourd'hui?
Oui, bah actuellement, mon collègue, vous avez parlé de mon collègue Grégory Chailloux tout à l'heure, il est actuellement au concours. Donc il encadre le concours qui a lieu en Seine-et-Marne, là. Et donc c'est vrai qu'on a la moitié de candidats qui viennent à ce concours par rapport à ce qu'on a d'habitude.
Comment vous l'expliquez justement cette baisse au fil des années?
C'est difficile, je pense que bon, c'est sociétable. Hein. Sociétal, c'est. Je pense que les jeunes de maintenant n'ont plus trop envie de rentrer dans un système qui, on va dire, a beaucoup de. Pas fausses données, hein, c'est pas comment que ça s'appelle, c'est des samedis, des dimanches, des jours fériés, la carrière c'est pas non plus mirobolant, hein, on sait pas trop quel grade on va finir, et les gens maintenant sont plus enclins à profiter, on va dire profiter de la vie, profiter de leur famille, par rapport à ce que les sapeurs-pompiers on a connu avant, où les gens rentraient vraiment pour l'envie de travailler, l'envie d'être avec d'autres collègues, choses comme ça, ça se perd. Même si tout jeune, il y en a qui veulent le faire, ça se perd beaucoup.
C'est qu'entre guillemets, il y avait cette sécurité de l'emploi en tant que.
Ouais, mais enfin, je pense que dans les pompiers, les policiers, c'est pas ça qui attirait la sécurité de l'emploi, même chez les infirmières ou dans les hôpitaux. Si on y rentre pour la sécurité de l'emploi, à ce moment-là, on va à la poste, on va, enfin, vous voyez, dans la banque, dans les trucs qui sont vraiment enclins à être plus tranquilles, quoi. On rentre pas trop, c'est comme les militaires, on rentre pas chez les militaires parce que c'est la sécurité de l'emploi. D'ailleurs, ils n'ont pas, ils s'en vont au bout d'un temps passé. Non, mais voilà, c'est un fait de société. Après, il y a le bouche à oreille qui dit, bon, ça devient être dur. Après, on voit ce qui se passe dans les cités aussi. Caillassage, cocktail Molotov, maintenant on en est au mortier. Demain, il y en a qui se sont déjà fait tirer dessus, hein, avec des collègues à Lille, tout ça. Donc, ouais, ça attire pas. Ça tire pas. Même les sapeurs-pompiers volontaires, il y a de moins en moins de gens chez les sapeurs-pompiers volontaires. Il y en a qui s'arrêtent. Hein. Et là, au Covid, avec les 2 ans de Covid, beaucoup se sont arrêtés.
Parce que c'est ça, pour les sapeurs-pompiers volontaires, le statut, il est différent.
Alors, il est différent, mais ça attire de moins en moins.
Quand on dit que le statut est différent, c'est-à-dire.
Pardon.
Quand on dit que le statut est différent justement entre les sapeurs-pompiers volontaires.
Nous, si vous voulez, on a un système de salaire. Hein. Voilà, les sapeurs-pompiers volontaires, c'est un système de vacations. Ils ont des vacations qui sont non assujetties aux cotisations salariales, mais qui ne comptent pas non plus pour la retraite. Ils ont un petit pécule qui leur donne pour la retraite, je ne connais pas trop, mais enfin ils ont un petit truc, mais ce qui n'est pas. Qui n'est pas mirobolant. Donc, avant, on avait des sapeurs-pompiers volontaires qui rentraient très jeunes, qui finissaient leur carrière de volontaire à 50, 60 ans. Maintenant, le pompier volontaire, je crois que la durée d'engagement, c'est 5-7 ans.
D'accord.
5-7 ans, et après, ils sont bons pour X raisons. Hein. Vie de famille, c'est prenant, la formation, tout ça. Et puis voilà, ils ont plus trop envie de se... C'est un petit plus pour le volontariat. Après, il faut différencier le volontariat dans les gros départements comme nous, en zone urbaine, et le volontariat dans la Creuse ou des choses comme ça, qui n'a rien à voir.
Vous en avez parlé juste avant, vous avez un peu anticipé mes questions concernant justement les conditions de travail sur le terrain directement des pompiers, des sapeurs-pompiers. Les agressions envers les sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est en hausse selon vous ? Quel est votre avis dessus ?
On va dire les agressions, c'est. Moi je l'ai connu depuis ce temps. Moi je l'ai vu arriver hein, dans les années 90, hein, on a vu les premières émeutes hein, urbaines. Hein, donc nous en 90, les premières ici dans le département, c'était Sartrouville, avec un gros problème qui a duré à peu près un mois avec le décès d'un jeune dans un magasin au marché qui avait été tué au fusil par un des vigiles. C'est une histoire en fait entre nous de ce que ça se dit plus maintenant, mais de race hein, entre les maghrébins et africains. Donc de là, bon, c'était parti, et ça a été les premières émeutes vraiment réelles. Quand je dis émeutes, c'était vraiment des grosses émeutes, avec un magasin en centre-ville de Sartrouville, un magasin à Leir, qui a littéralement brûlé avec des habitations dessus. Donc, auquel cas, ces émeutes de Sartrouville ont été citées dans un livre d'histoire, parce que mon fils m'avait fait voir dans un livre d'histoire, donc ça devait être quelques années, avec les émeutes de Chicago. Vous voyez, donc émeutes de Sartrouville, émeutes de Chicago. Il y avait marqué émeutes raciales. Voilà, c'est. Voilà. Donc ça a commencé là, et ça n'a fait qu'empirer. Voilà, ça n'a fait qu'empirer. Au début, c'était par intermittence, hein, et puis après, maintenant, c'est régulièrement, hein, donc avec tout ce qu'on sait, hein, avec la drogue, des choses comme ça. Après, les problèmes de sécurité, je crois que c'est grosso modo, il n'y a pas que les sapeurs-pompiers, hein, c'est tout le monde. Hein, les facteurs, les bus qui passent dans certaines cités qui sont caillassés, voilà, ça ne fait que monter et empirer.
Justement. Vous, en tant que sapeur-pompier, comment vous le vivez ? Parce que on sait qu'il y a les affrontements avec la police dans les RICS qu'il y a avec la police, donc bien sûr on ne cautionne aucune violence. Vous, directement les sapeurs-pompiers, votre travail comme les policiers aussi, hein, c'est de sauver les gens. Donc tout naturellement, on ne se dit pas qu'il va y avoir des affrontements. Donc c'est un peu. Comment on se situe quand on est sapeur-pompier face à ça ?
C'est. je sais pas si on y pense trop, on y pensait avant, parce que quand c'était les grosses émeutes, bon voilà, on savait que c'était comme ça, puis il fallait qu'on fasse. Maintenant, il faudrait pas qu'on dépasse à un moment donné un certain point. Maintenant on en est arrivé avec parfois des gilets pare-balles, enfin maintenant on va voir des tenues par lame. On n'y pense pas, c'est comme quand on va au feu et qu'il y a du danger, on n'y pense pas non plus. Voilà. Donc on est formé pour, et puis c'est devenu une habitude. Donc on ne va pas se dire que ça reviendra comme un jour. Bon, voilà, c'est une habitude. Alors, on dit qu'en face, bon, voilà. Pour nous en face, on dit qu'ils sont un petit peu, entre guillemets, imbéciles de faire ça sur nous, surtout qu'on on les embête pas. Hein. C'est-à-dire qu'on fait notre devoir, on va pas regarder s'ils sont en train de dealer à côté ou s'il y a tel truc. Non, on n'a rien à faire. Quoi. Évidemment, quand la police vient avec nous, parce que maintenant c'est une obligation, hein, la police va venir pour X saut. Donc, c'est difficile. Et ce qui est encore plus embêtant, là où vraiment, on n'accepte pas d'être agressé. Mais là franchement, où on n'accepte pas, c'est quand ils s'en prennent au véhicule pendant qu'on n'est pas là, qu'ils les déplacent, qu'ils les volent. C'est arrivé plusieurs fois. C'est du grand n'importe quoi. Là, ils jouent avec la vie de leur famille, de la population qu'ils connaissent. Et voilà, difficile. Difficile à accepter, on va dire, c'est difficile à accepter. Ça pousse nos collègues dans certains retranchements. Je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas un souci. Enfin, il a failli déjà avoir des soucis. Nos collègues sont assez... Quand je vois la police, qu'ils sont armés, comment ils arrivent à tenir... je pense pas que des fois nous on n'est pas armés, mais bon, on arriverait à être aussi froid à un moment donné, quoi. Il pourrait y avoir une réaction de nos collègues. D'ailleurs, à Bordeaux, il y a eu, parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude d'émeutes, là, à Bordeaux, il y a eu quelques soucis il y a quelques temps. Là. Les gars, ils vont venir se former dans le 78 le mois prochain.
D'accord. Okay. Voilà. Justement, pour un peu appuyer vos propos et pour les auditeurs qui ne savent pas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé dans un tweet la baisse des agressions envers les sapeurs-pompiers de 14% en 2021. En termes de chiffres, 1518 agressions en 2021 contre 1764 en 2020. Mais quand on regarde d'un peu plus près, selon les informations de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, donc DGSCGC, le nombre d'agressions verbales reste stable. Quant aux agressions avec armes, elles sont en effet en diminution, donc 148 en 2021 contre 173 en 2020. En revanche, c'est les agressions physiques, crachats, morsures qui sont en hausse, 648 en 2020 et là 836 en 2021. Alors, lancé, j'ai pu voir qu'en été 2020, il y a un plan de prévention et de lutte contre les agressions envers les sapeurs-pompiers qui a vu le jour, et notamment avec le dépôt de plainte, mais aussi, comme on en a parlé, les gilets pare-lames, les vides de protection latérale, et aussi un observatoire national des violences et des caméras piétons. Les caméras piétons, ça a été un sujet notamment au sein de la police municipale à un moment donné. Vous, en tant que sapeur-pompier, votre avis sur les caméras piétons?
Ça peut... Mon avis personnel, ça peut être une aide, voilà, mais ça peut aussi engendrer des fois une réaction de la personne en face. De deux sortes la réaction. La réaction d'une personne qui est un peu encore bien dans sa tête et qui va, quand on lui dit vous allez être filmé, il va se calmer. Et l'autre qui va dire, on sait qui c'est, hein, un petit jeune qui dès qu'on fait quelque chose va monter. Ça pourrait engendrer, mettons, une réponse plus inappropriée. Mais bon, ça sera une aide parce qu'on verra ce qui se passe ou des choses comme ça. Après, ça va pas arrêter les agressions de loin, ça va pas arrêter les agressions en pleine nuit. ça ne peut être qu'un bien pour des agressions quand on va chez quelqu'un et qu'il a, que la personne a une petite crise de folie ou des choses comme ça. Bon, là, ça peut intervenir. Maintenant, pour les agressions, on va dire, genre violence urbaine, bon, ça va pas générer de grosses différences. Quoi.
Là, c'est plus vraiment pour le dépôt de plainte par la suite, au moins à la preuve du...
Après, si on revient sur les dépôts de plainte, le ministère malin dit ce qu'il veut, comme le gouvernement. Il y a des remontées qui ne se font pas des GIS sur les capacités, les agressions, sur le 31 décembre, ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on voit sur le terrain et ce qui a été remonté par notre direction, c'est pas pareil.
D'accord.
le nombre de voitures brûlées, le nombre de... Voilà. Et ça part pompier, on va pas aller se plaindre quand on se fait, on va dire, cracher dessus, voire insulter. On va pas déposer plainte non plus. Donc on va dire que quelque part, tout est minimisé quand même. Depuis des années, c'est minimisé. Donc il faudrait qu'on soit toujours presque... Chaque coup qu'on fait une intervention dans un endroit, il y aura presque un dépôt de plainte. Donc... Et puis vu qu'on sait qu'actuellement cette plainte elle sera classée vraiment sans suite, bon, si c'est pour faire un chiffre de plainte, c'est pas la peine. Donc je pense que c'est vraiment minimisé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, sauf un jour taper le poing sur la table et puis ça suffit. Mais je pense qu'on ne sera pas là, quoi.
Il y a eu des manifestations en 2017, en 2019 et aussi en 2020. Ouais. Vous avez ce sentiment de ne pas être entendu justement par le gouvernement qui ne se rend pas compte de la réalité du terrain peut-être ?
Écoutez, en général, sur quoi ? Sur la réalité du terrain, sur les...
Sur les conditions de travail,
les conditions.
On en parle là.
Oui, sur les conditions, je pense que, en gros, je ne dis pas que la DG sert à quelque chose, mais pour nous, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, la DG nous le dit, hein, en fait, ils ne sont pas là pour... ils sont là que pour, comment dire... faire une circulaire, une chose comme ça, ils sont pas là envers nos ZIS, nos services départementaux, pour leur donner des ordres. D'accord ? Ça, c'est une chose. Alors, les ordres, ici, c'est les élus du département qui nous les donnent. Et sur le plan national, il est vrai qu'on n'est pas... on n'est pas écouté. Enfin, on est écouté, on va dire. Mais bon, c'est classé sans suite sur plein de domaines. Donc, voilà, il n'y a pas de... Il y a très peu de choses qui arrivent au bout. Hein. Ce qui n'est sur le secours à victimes ou choses comme ça, ils en ont pris conscience, mais bon, voilà, c'est très long. Mm-hmm. Puis le ministère de l'Intérieur est très... Alors, si un secours à victimes, il est très, comment dire, très petit face au service de santé, quoi, au ministère de la Santé. Puis vraiment à la main mise. Donc ça, c'est un des premiers points sur le temps de travail. On veut certes surtout pas changer, on pourra en parler tout à l'heure. Le temps de travail, il est ce qu'il est chez sapeurs-pompiers, mais on a un décret de temps de travail qui n'est pas appliqué. Voilà, il y a plein de choses. Mais sapeurs-pompiers, on a toujours été un monde à part, quand même. Où il y a très peu de choses qui avancent, et quand ça avance, ça met 30 ans à avancer. Donc...
C'est soit tout, soit rien.
C'est peut-être pour ça aussi que les collègues, les candidats ne se bousculent pas au portillon pour venir chez nous aussi, parce qu'ils savent que être applaudi comme les infirmières pendant le Covid ou dire à les sapeurs-pompiers que quel monde merveilleux, mais en fait derrière un sacré taf. LFL 95.5.
C'est la fin de notre première partie. En deuxième, on va continuer à écouter mon échange avec l'adjudant chef William Moreau, sapeur-pompier, mais aussi secrétaire général de l'UNSA, Union Nationale des Syndicats Autonomes. On fait une petite pause musicale. On va s'écouter Balada de Soul King et Niska. Et on revient tout de suite après pour la seconde partie d'État et Civil. A tout de suite.
Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
Des sous, je rentre tard. C'est léger, je suis pas trop fait tard. Je suis les ouais, je roule sur la costa. Pas de thé sur tous les posters. J'ai visé tout là-haut. Écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques, mais t'es KO. Là, c'est Soul King et Charo des Chao. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Bangston me quitte pas? J'ai sorti le bail qui le fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
C'est trop de la D, c'est plus la même qu'avant. Chacun croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. J'fais bouger le tismé. J'fais partir le Tosma. La zone elle est minée.
crevé ce qu'il est menotte. Charlie Delta au quartier latin, Choco Jota ou Kiki Lotin. Méchant méchant, on a gâté le coin car depuis longtemps on est culotté.
Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai pas encore ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui les fait danser.
Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
LFL
95.5. De retour sur le 95.5 FM, toujours avec moi-même Nicolas Boraski. Si vous venez de nous rejoindre, on démarre la seconde partie d'État civil, l'émission qui donne la parole à l'État, les collectivités, les citoyens pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Ce matin, dans État civil, on parle des conditions de travail des sapeurs-pompiers et de leur rapport avec la population. J'ai pu rencontrer l'adjudant-chef William Moreau, sapeur-pompier, ainsi que secrétaire général de l'UNSA, Union Nationale des Syndicats Autonomes. On écoute cela de suite et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. A tout de suite.
LFM 95.5.
Là au moment où on enregistre l'émission, on est mercredi 9 mars. Si vous devez faire un, là depuis le début de l'année en 2022, sur les interventions que vous avez à effectuer, c'est en hausse, c'est en diminution, ça stagne,
ça remonte.
Ça remonte.
Donc c'était bien, ça s'est baissé pendant le Covid, ça s'est baissé au moment où on a manifesté en 2018-2019 dans les Yvelines, hein, sur donc c'est le problème du SAMU et de l'ARS qui faisait vraiment une mauvaise gestion, qui continue à refaire une mauvaise gestion. Donc il a fallu qu'on manifeste, il a fallu que notre directeur départemental pousse un petit peu à la roue, puis que les élus commencent à voir que les effectifs n'étant pas là, on n'arrivait plus à faire notre métier, en fait notre métier de sapeur-pompier, qui est d'intervenir très rapidement sur des domaines feu et secours à victimes, mais d'urgence, pas du secours à victimes de carence ou du secours à victimes de bobologie. Et donc là, ils s'en sont aperçus, mais ils s'en sont aperçus parce que bon, voilà, on a fait la manifestation à Versailles, on a été au CH André Mignot, au siège du centre 15. On a un collègue, je n'étais pas là quand ils ont été, mais ils ont été à l'ARS. Ça a un petit peu bougé les gens de l'ARS parce qu'ils sont rentrés dedans et tout. Et je pense que les collègues seront prêts à recommencer si, mettons, on recommence à faire des carences et du grand n'importe quoi. Pour le Covid, vous savez, il y a une chose qui m'a quand même un petit peu... Alors moi, je n'étais pas en intervention, j'étais plus en intervention à ce moment-là, mais on a parlé beaucoup des ambulanciers privés qui faisaient des choses, mais en fait, les ambulanciers privés, le soir, ils n'étaient plus là, quoi. Et même la journée, hein, c'était les pompiers qui faisaient tout. Donc, avec du matériel récupéré un peu partout, grâce à notre... Là, la direction a fait ce qu'il fallait. Du matériel qu'on a récupéré chez Peugeot, des tenues ou choses comme ça, hein, parce que le ministère, il n'y avait rien. Nous, on n'avait rien. On avait gardé des choses l'ancienne ministre de la Santé qu'on a mis de côté suite au SARS, là, il y a quelques années. Donc heureusement qu'on avait gardé ces choses-là, qui étaient périmées, mais bon, ça servait quand même, il n'y a pas de souci. Des masques, des gants, choses. Mais voilà, c'est vraiment... on a vraiment été, sur le Covid, sur le transport de victimes, on a vraiment été là. Et là, ça recommence sur les interventions. Bon, le fait Covid a bien baissé. Mais sur toutes les interventions bobologie ou même n'importe quoi, des fois, ça recommence, ça remonte. Quoi.
J'avais pu voir justement sur un témoignage de certains pompiers qui disaient, donc je les cite, on est appelé aujourd'hui pour tout et n'importe quoi comme intervention urgente, comme non urgente. Ouais. On est vraiment devenu, entre guillemets Uber 78, c'était un peu le nom d'un slogan. C'est,
je pense c'est un peu ça. Hein. Et collègues pendant la manif, et qui avait peinturluré des ambulances en marquant Uber, en taxi ou choses comme ça. Ouais, c'est ce qu'on sait. C'est du taxi, mais c'est valable dans tous les départements. Donc le ministère a pris quand même un bras le corps cette chose-là. Le ministre de la Santé, eux, freinent des cas de fer. Le SAMU aussi, parce qu'ils veulent garder leur mainmise. De toute façon, c'est vraiment le SAMU qui, entre guillemets, qui met un peu le bordel. Et voilà, je pense que derrière, il y a une histoire de gros sous aussi. Hein, sauf que nous, et sa propre compagnie, on n'arrive plus. On était à 125 000 interventions il y a deux ans, avec toutes ces histoires. On était descendu à 119, je crois, l'année dernière. Bon, il y a eu l'effet Covid, donc en fait, avec quand même moins, un petit peu plus d'interventions Covid, mais la bobologie, tout ça, avait disparu, parce que les gens étaient chez eux et des choses comme ça. Donc ça avait baissé d'un côté. Le SAMU faisait aussi un peu attention, parce qu'on ne pouvait plus faire n'importe quoi. Mais là, ça remonte. Je crois que là, cette année, on est remonté à 121 000, je crois, ou 122 000. Donc, si on ne fait pas attention, on va dire, le SAMU, les ARS, qui servent, je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, ça va revenir.
Quand vous dites la bobologie, pour nos auditeurs, c'est...
Ouais, bobologie, c'est... Ben voilà,
c'est petit bobo, c'est ça.
Une petite coupure, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein, la personne qui a mal aux dents. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ça arrive... Alors, 50% de nos interventions... C'est notre CODIS, c'est le centre d'appel, la réception d'appel des sapeurs-pompiers, donc c'est eux qui reçoivent, et 50%, on va dire, c'est le SAMU hein, qui nous envoie. Mais le SAMU nous envoie une rage de nom, il nous envoie, enfin bon, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, voilà, c'est des choses, j'arrive même pas à comprendre, quoi. Alors maintenant, ce qui se passe quand même, les élus ont pris... ont vu la problématique, parce que bon, à chaque conseil d'administration, moi j'étais au conseil d'administration comme représentant, hein, j'étais le seul, parce qu'il n'y en a qu'un. Maintenant c'est mon collègue Grégory Chailloux qui est, suite aux dernières élections, parce que moi j'ai arrêté. Et à chaque conseil d'administration, on parlait du SWAP, on parlait du SAMU. Le directeur du SAMU qui est présent, on l'interpellait, donc il se faisait tout petit, parce que... Donc les élus font attention à ça, et sans ça il faudrait qu'on monte les effectifs, donc on peut pas non plus. Et donc voilà, c'est les élus ayant pris conscience de ce problème, ils essayent de gérer au mieux, et que le SAMU n'aille pas dans n'importe quoi. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup maintenant de villes qui ont remis en place des centres médicaux. Avec des médecins, des dentistes et tout. Il y en a un à Sartrouville, quand vous passez, il parlait d'en faire un ou, enfin, pas mal de villes l'ont refait, parce qu'il y a un manque de médecins, voilà, donc ça joue aussi. Après, moi, je dirais aux auditeurs quand même qu'il ne faut pas se précipiter à l'hôpital, ça ne servira à rien. Qu'ils aillent avec nous, ils ne passeront pas avant les personnes qui sont là-bas. Au pire, s'ils n'ont pas grand-chose... qu'ils essayent de voir leur médecin, s'ils n'ont pas de médecin, qu'ils essayent d'appeler SOS médecin, même si c'est long, c'est mieux que d'attendre 5 heures ou 6 heures dans un hôpital, quoi. Enfin,
Et puis l'autre aussi,
ça sert à rien.
Bien
voilà.
Sûr. Alors, à l'hôpital, ça sert à rien. Interventions, que ça soit bénin ou, comme vous dites, la bobologie, ça vous empêche d'aller travailler sur un
problème de cardiaque, sur les problèmes de difficultés ventilatoires ou d'AVC, des choses qui sont vraiment très urgentes. Fractures, accidents, enfin des choses où la vie de la personne est mise en danger. Sans parler aussi de notre métier de base, hein, c'est les incendies, où là, souvent, parce que nos ambulances sont dehors, ce qu'on appelle les VSAV, on a moins de personnel dans nos fourgons. Donc, qui dit moins de personnel, des manœuvres d'extinction qui sont plutôt moins bien, et s'il y a des sauvetages, on ne pourra pas les faire. Et à faire choisir. On fera le sauvetage en premier parce que c'est la priorité, mais s'il faut en même temps, il faut faire les deux, ça va être délicat.
La direction du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, donc SDIS 78, a été interpellée dernièrement concernant des heures supplémentaires à payer.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez rappeler un peu cette situation-là pour nos auditeurs et auditrices ?
Alors, c'était pour des heures supplémentaires pour les gens, les collègues qui travaillent au CODIS, donc qui sont à la réception de l'appel. et à la gestion des secours, donc des centres. Nos collègues, donc ils ont un temps de travail annualisé. Et du fait du Covid, on va regarder sur le fond de l'affaire, en fait, du fait du Covid, 30% des heures qui étaient effectuées par du personnel sapeur-pompier volontaire, hein, parce qu'on a des volontaires aussi, ces sapeurs-pompiers volontaires ont arrêté pendant le Covid. Parce qu'il y a eu le vaccin obligatoire, donc ces gens-là, il y en a beaucoup. Certains n'ont pas voulu se faire vacciner, ont arrêté, d'autres parce qu'ils avaient autre chose à faire, leur famille, tout ça. Donc ils ont arrêté de donner des gardes. Et donc, ne donnant pas de gardes, c'est les sapeurs-pompiers professionnels qui ont dû faire ces 30% d'heures en plus. Donc on en est arrivé, ce qui est déjà arrivé des fois d'autres années, mais beaucoup moins, on en est arrivé vers fin novembre. Il y a eu une mauvaise gestion aussi sur l'année de ces heures, fin novembre, avec des collègues qui ont eu, en gros, enfin, tous les collègues, hein, il y en a une cinquantaine, il y avait 1500 heures supplémentaires pour tous, en plus. Donc les collègues nous avaient interpellés en demandant que ces heures soient payées. Ils ne voulaient pas qu'ils soient récupérés, ce qui est difficile chez nous. Donc on avait demandé, payez-les, surtout que c'est défiscalisé, enfin bon, c'était, en ce moment, ça vaut le coup. Mais la direction, ça n'a jamais été, depuis des années, ça n'a jamais été, on va dire, leur politique de payer des heures supplémentaires. Ils ne veulent pas. Ah, c'est tout. Ils se débrouillent comme ils veulent, on récupère les heures, enfin, ils lissent un peu les choses sur l'année d'après. Enfin, bon, voilà. Ils ne veulent pas payer, c'est pas leur politique. Sachant quand même que la délibération au conseil d'administration est votée. D'ailleurs, on peut payer des heures supplémentaires. Ils en payent quand même pour des officiers. Voilà, selon leur statut, certains officiers font des gardes en astreinte et autres et sont payés en heures supplémentaires. Bon, ça, c'est comme ça. Alors, pour les gens du CODIS, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont même pas voulu nous recevoir, d'ailleurs. Hein, la direction, on a envoyé des mails, des courriers. Il n'y a pas eu, on va dire, de pourparler, même de réunion avec nous pour parler de ça. Il y a eu une réunion avec les agents, un par un, pour ceux qui voulaient venir, avec un lieutenant-colonel qui était au RH, et c'est tout. Donc ça fait que les heures supplémentaires que nos collègues ont fait, ils sont reportés sur l'année 2022, ils vont faire un petit peu moins de travail, sauf si ça recommence.
Donc, c'est ça, voilà. Parce que comme c'est un peu en sous-effectif, dire à des pompiers de récupérer des heures, c'est, on va rester sur le même problème de sous-effectif.
Voilà, exactement. Alors ça arrive de temps en temps. Après, c'est un problème, comme je dis, les sapeurs-pompiers, on vit dans notre monde, on n'applique pas les textes, pour X raisons, parce que les directions départementales, ça les inquiète pas plus que ça. Ça les aide aussi parce que ça cache comme ça le manque d'effectifs. Parce que si demain on appliquait les textes du temps de travail de la fonction publique territoriale plus le décret de sapeurs-pompiers, ça démontrerait que même avec des pompiers volontaires qu'on vient mettre dedans, ce qui n'est pas négligeable, on n'arriverait pas à faire tourner. Mmh. Sachant que les pompiers volontaires, on n'est pas sûr du coup. Hein. C'est-à-dire, je veux dire, il y a une chose, c'est que le 15 août ou au mois de juillet, au mois d'août, on en a beaucoup moins, ce qui est un peu normal, mais ou le 31 décembre, ou des choses comme ça. Mais si vous voulez, si demain ils n'ont plus envie de venir, ils ne viennent plus. Il n'y a rien qui les force, tandis qu'un professionnel, il ne peut pas arrêter du jour au lendemain, sauf à être malade ou des choses comme ça. Ou s'il veut arrêter le métier de pompier, il y a 3 mois de préavis. Donc il y a quand même. Pompier volontaire, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un contrat bien. Il y a un petit contrat, hein, mais sans plus. C'est pas un contrat fixe et forcé. Donc en revenant au CODIS, et en revenant au temps de travail, si demain on appliquait bien les choses, il n'y aurait pas ce souci. Et pour le CODIS, si mettons on n'aurait pas annualisé le temps de travail, mais qu'on aurait mensualisé le temps de travail, on aurait pu faire une moyenne du temps de travail par mois, ce qui est fait un peu pour tout fonctionnaire, tout travailleur dans le privé, avec une moyenne par semaine, hein, qui est 48 heures maxi, 44 heures moyen, et on arriverait à la fin du mois à dire, t'as fait 48 heures en plus, ou 24 heures en plus, 25 heures, on te les paye, le mois d'après, hop, terminé. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, on fait tout à la fin de l'année, puis à l'année, on se retrouve. Là, le CODIS, ce qui s'est passé, il y a des années, il y a certains centres, on avait des gens qui faisaient 100 heures, 150 heures en plus. Et l'année d'après, ils avaient 100 heures ou 150 heures en moins. D'accord. On essayait de. Voilà, c'est vraiment difficile. Après, jusqu'au jour où il y en a un de nos collègues qui peut-être, aussi bien qu'au 10 qu'au dans les centres, qui les amènera au tribunal administratif et qui dira, moi, je ne peux pas faire ce que vous dites. On a un règlement intérieur, dans le règlement intérieur, il est marqué qu'on peut arriver à 72 heures par semaine pour les gars en centre. 72 heures, ça commence à faire 3 quarts de 24, de 24 heures, mais parfois on arrive à plus que ça.
Justement, par rapport au CODIS, c'était une de mes prochaines questions. Donc, CODIS pour les auditeurs, Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. J'avais cru que vous avez engagé ces dernières années plusieurs projets de modernisation autour de ce CODIS-là. Quels sont ces projets-là?
Le CODIS, là, actuellement, la salle, elle est toute neuve. Franchement, j'y étais encore la semaine dernière. Elle est très belle, il y a du personnel. Ils essayent d'en rembaucher là, normalement. Mais bon, c'est tous les ans, il y en a aussi qui veulent sortir du CODIS et puis qui veulent aller en centre, donc c'est délicat. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, ce qu'on avait demandé, c'est professionnaliser déjà le CODIS, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de volontaires. Ce qui éviterait la problématique là, parce que si demain le CODIS y tombe, ou si mettons on n'arrive pas à le faire fonctionner, c'est tout le reste qui ne marche plus. Hein. Les demandes de secours, ils vont attendre. Hein. Vous savez, moi l'autre jour à Paris, j'ai appelé la police, j'ai été mis en attente 17 ou 18 minutes avant d'avoir quelqu'un. Donc je ne voudrais pas qu'on arrive un jour à nos colis, arriver à attendre 18 minutes avant un décrochage de téléphone. Donc il faut professionnaliser pour nous ce colis, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de professionnels, un petit peu plus qu'il y a actuellement, parce que sans ça on n'arriverait pas à tourner, donc il faut une embauche un petit peu supplémentaire, avec un service et un temps de travail attrayant. C'est ça qui attire le collègue pour aller là. Et voilà, c'est à repenser. C'est ça qui est à repenser. Bon, voilà.
On a parlé des affrontements avec une partie de la population. Il n'y a pas que ça, j'imagine, dans votre quotidien. Il y a aussi les Français qui vous sont redevables. Est-ce que vous le ressentez réellement sur le terrain, justement, ces personnes-là qui sont bienveillants envers les sapeurs-pompiers?
Ah oui. Les gens, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. Quand on fait des interventions où, on va dire des fois un peu dur, où on a des retours des fois par courrier, hein, des gens qui écrivent, qu'on voit des petits mots, choses comme ça, même sur intervention, les gens sont... Heureusement qu'on a ça. heureusement, parce que bon, on n'aurait que le contraire, on va dire, à chaque coup, on aurait des gens qui nous insulteraient ou choses comme ça. Je pense qu'il y a longtemps que les gars seraient un petit peu plus remontés et puis iraient à l'encontre de ces personnes. Donc, ouais, il y a le négatif, il y a le positif. Pour l'instant, je pense qu'il y a le positif et encore un peu plus supérieur. Heureusement. Ouais.
On va arriver à la fin de cette émission. Le colonel Stéphane Millot, donc directeur des services d'incendie de secours des Yvelines, avait dit, je le cite, « Le métier de sapeur-pompier, c'est une tradition. Cela inculque des valeurs au quotidien. Notre rôle est également de donner, faire partager nos valeurs à la jeunesse. » Votre avis sur ces propos-là?
C'est des propos. Je dirais... je ne veux pas faire politique, chacun a ses idées. C'est pas parce que je suis dans un syndicat que je suis quelqu'un qui partage des idées on va dire de gauche, de droite, enfin bon bref. Mais j'ai mes idées politiques aussi. Les grandes phrases, moi, je pense qu'on est fatigué de les entendre. Enfin, les collègues de terrain ils sont fatigués d'entendre ces grandes phrases-là. On a des valeurs, comme tout à chacun. Moi, mon fils qui est professeur, s'il est professeur à des écoles, là, je pense qu'il a des valeurs, mais même sans y être, il a des valeurs aussi. À dire, chaque citoyen français a des valeurs. Ou pas. Peut-être des pompiers qui n'ont pas trop de valeurs non plus. Je pense que les valeurs se perdent.
Justement, donc, par rapport à la...
Se perdent.
Par rapport à la jeunesse.
Partout.
Partout, ouais. Par rapport à la jeunesse, du coup, comme on parlait un peu avant, sur le recrutement, sur le sous-effectif de certains pompiers, comment, selon vous, on peut réussir à les motiver un peu plus la jeunesse? Est-ce qu'il y a des journées spéciales qu'on devrait faire de prévention, de présentation du métier des sapeurs-pompiers? On sait que, par exemple, à Épône, il y a le ProxRed qui est mis en place. Est-ce que plus d'événements
On en a, mais il ne faut pas non plus vendre une chose qui est... Comment dire? Si, vous savez, moi j'ai connu des enfants qui voulaient à tout prix être pompiers, hein, et puis qui sont arrivés parce qu'ils voulaient être pompiers. Tout petit, le gars il voulait être pompier. Après, ça peut arriver un petit peu plus tard. Mais il faut toujours, enfin moi, il faut toujours donner le bon, mais aussi donner à côté, dire attention, tu vas avoir des droits, tu vas avoir ça, tu as envie d'y être, mais fais attention, le métier, il est comme ça. Je ne crois pas qu'on va être toujours dans un fourgon en train de sauver la veuve et l'orphelin et à éteindre le feu. C'est pas vrai. Et si on trompe les gens, et ben c'est pour ça qu'on en arrive à un point que là, on n'a plus de candidats. Parce que je pense que pendant des années, nos élus sont un peu dans cette démarche aussi de dire certaines fois, de démontrer, on va dire, ce qu'on appelle la vitrine. Je pense que dans le 78, on a une grosse vitrine. Ce qui a toujours été le cas. Ça s'était calmé un petit peu, puis là, ça recommence. Enfin, bon, bref. Et je pense que c'est pas bon non plus. Démontrer ce qu'on fait, faire voir que ça va et tout, comme à l'armée. Hein. Maintenant, vous voyez très bien avec ce qui se passe en Ukraine que l'armée, on s'aperçoit que derrière, si on gratte, il n'y a plus personne. Enfin, eux sont là, ils font ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils n'ont pas le matériel, ils manquent plein de choses. Enfin, on découvre. Et je pense que le métier de pompier, mais le matériel, ça va maintenant, ça a bien bougé. Mais il ne faut pas vendre aux gens que c'est un métier formidable. C'est un métier formidable dans la tête, parce qu'on fait des choses tous les jours, ça change. Mais voilà, il ne faut pas en attendre d'avoir un grand remerciement. Les médailles, j'ai toujours pensé que ça ne servait pas à grand chose, mais bon, on aime bien les médailles, donc on a les médailles, il y en a qui aiment bien hein, les médailles. Et voilà, je pense que maintenant les gens, quand ils rentrent dans un métier, ils regardent aussi leur famille, ils regardent aussi le salaire. L'autre jour, j'ai vu le colonel Millau, on était ensemble pendant quelques heures la semaine dernière avec deux, trois collègues. Et je pense qu'ils se trompent. Et je pense qu'ils sont un peu comme notre gouvernement et nos élus. Ils se trompent largement sur la société actuelle, sur comment elle est en train de changer. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, je pense que la suite des événements sur certains métiers comme les nôtres, policiers ou autres, ça va changer, quoi. Ça va grandement changer. Après, je ne suis pas sur le domaine salarial, si on en parle un petit peu, si on gratte un petit peu, moi je vais partir à la retraite là, au mois de juillet. C'est pas tout mon salaire qui est dans ma retraite, hein. Loin de là, c'est toutes les primes, ça part à l'as, hein. Alors qu'on a cotisé dessus, mais bon, ça part à l'as, donc on perd beaucoup. Hein. Et quand je vois qu'un chauffeur de bus RATP va se faire plus de retraite que moi en ayant fait 44 ans de travail, lui peut-être beaucoup moins, bah, je me dis qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème sur vraiment des métiers qui sont comme les infirmières, nous, choses comme ça, qui donnent en longueur d'année, surtout sur le temps de travail, hein. On n'en a pas parlé, mais le temps de travail, c'est, comment ça s'appelle, un décret, 2256 heures, hein. Donc de présence. Donc de présence, bon, évidemment, on fait une garde de 24 heures, dedans on doit travailler minimum 8 heures, là où on doit donner, dans les bureaux, choses comme ça, mais dès qu'on a les interventions, on sort. Hein. Je vous donne un exemple, hein. Des collègues qui sont dans une ambulance à Versailles, sur les 24 heures, ils vont peut-être passer des fois, il y a des nuits, ils vont passer 18 heures, enfin des journées, des nuits, ils vont passer 18 heures dehors. Bon, ils ne sont pas payés 24 heures. Hein.
Justement, j'allais vous poser cette question-là pour terminer.
On avait fait des calculs à un moment donné, si on était payé réellement autant de présence et choses, je pense qu'on doublerait notre salaire.
Ok. Voilà. Merci.
Voilà. Bien, bah, merci à vous.
LFL
95.5.
Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à monsieur William Moreau, adjudant-chef sapeur-pompier, ainsi que secrétaire général de l'UNSA, Union nationale des syndicats autonomes, d'avoir répondu à toutes mes questions. On se retrouve, nous, de notre côté, la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11h, pour un nouveau numéro d'État civil. En attendant, vous restez bien à l'écoute sur le 95.5 FM pour tout savoir sur l'actualité du moment dans les Yvelines. Pas de soucis, restez bien à l'écoute car vous allez retrouver Akima Aya et la pause actu à midi et à 13h pour faire le plein d'infos local. Pour la fin de l'après-midi, de 16h à 19h, vous pourrez retrouver l'émission Le Live présentée par Alice. Elle va vous accompagner et vous faire écouter les sons qui marchent le plus en ce moment. Et enfin, pour finir votre journée comme il se doit, de 20h à 22h, d'ailleurs pour les vrais fans de notre rap français adoré, Mallory et son émission du Rap au Mic vous font découvrir les talents de demain, une émission 100% rap français, donc comme tous les mercredis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'LFM.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.